Moi, je ne suis pas anticapitaliste. Je suis encore pire que ça. Je suis anti-industriel. Je ne veux pas d'une machine rouge. Je ne crois pas qu'une machine verte soit possible. Une machine verte n'est pas possible. Et je ne veux pas d'une machine rouge. Je ne veux pas de machine. On ne peut pas être écologiste si on n'est pas anti-industriel. Donc, dans l'ordre des idées, puisque nous nous battons sur des idées, enfin nous nous battons, je me bats que dalle, je me débat. Bon, nous nous débattons sur la question des idées. Dans le domaine des idées, les gens comme nous, me semble-t-il, en tout cas moi c'est mon cas, je dis, je suis anti-industriel. Si vous voulez, si vous ne voulez pas cramer, il faut éteindre le feu. Bon, si vous voulez éteindre le feu, il faut déconstruire la société industrielle. Voilà.
Bon, mais bonsoir à tous. Voilà. Merci d'être venu et d'avoir bravé ce contexte un peu particulier. Mais c'est très bien parce qu'on est moins de 50, donc on respecte parfaitement les restrictions gouvernementales. Vous avez bien géré l'histoire. Voilà. Donc, grand merci à Pièces et Main-d'œuvre d'être là ce soir pour aborder la question de la technologisation et de la numérisation de nos sociétés, dans tous les secteurs de la société, que ce soit l'agriculture, l'éducation, le monde du travail. On assiste actuellement à un déferlement numérique et un déferlement technologiste qui peut poser question. Si vous entendez au fond?
Donc, il y avait déjà des commentaires. En fait.
Déjà des commentaires, ça pose question déjà. C'est bien,
ça va être...
ça va nourrir le
oui, ça
débat.
Va fuser les questions.
Bienvenue, tu es la 49e, ça passe bien.
Il
faut fermer. Oui. Donc je disais, dans ce contexte-là, nous avons en Aveyron plusieurs projets qui nous ont amenés à inviter pièces et main-d'œuvre, puisque nous avons des projets de Smart City qui arrivent sur la ville de Rodez, qui sont aussi repris par des listes qui se présentent à Millau. Projets de Smart City qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est de villes intelligentes, de villes connectées, qui marchent par champs électromagnétiques pulsés en champ libre, par d'autres technologies numériques, qui visent à une gestion automatisée de la ville. Et sur Rodez, ça se traduirait par des capteurs sous les places de parking pour que grâce à une application sur un smartphone, on puisse savoir où les places sont libres, etc. Et ça va poser tout un tas de questions sur lesquelles on pourra revenir. Avec aussi une velléité de capteurs devant les administrations publiques pour ouvrir et fermer les administrations publiques et adapter les horaires d'ouverture. Voilà. C'est l'idée générale, avec aussi la velléité qui nous a été présentée d'ouvrir les données, d'open data, pour avoir une plus grande horizontalité entre les élus et les habitants. En Aveyron aussi, il existe des projets dont vous avez forcément sûrement entendu parler, les projets d'implantation de bornes Wi-Fi dans les plusieurs communes de l'Aveyron, principalement dans le vallon de Marciac, mais aussi dans le sud d'Aveyron. Et ces projets vont aussi participer à une technologisation accrue de la vie sociale, à pousser les gens à se connecter de plus en plus via ces technologies. Donc ça pose aussi question. Et en introduction, je serai très rapide, je voulais aussi revenir très rapidement sur la question du coût écologique du numérique, pour donner quelques grandes tendances et quelques grandes indications, puisqu'actuellement, le numérique est la technologie qui permet justement cette gestion automatisée de la société, et c'est la technologie qui est la plus employée dans la société, c'est le numérique. Donc c'est à juste titre qu'on le questionne aussi. Au niveau du coût écologique, il faut savoir qu'un récent rapport parlementaire d'un député nommé malheureusement, le député Cédric Villani a montré que à l'horizon 2030, entre 20 et 50% de l'électricité consommée sera dévolue au numérique. Entre 20 et 50% de l'électricité consommée. Actuellement, enfin en 2008, c'était déjà 13% de l'énergie consommée en France qui était dévolue au numérique. Ce qui est énorme. La croissance de la consommation électrique du numérique, c'est de 8% par an. Voilà, donc c'est quelque chose qui va exponentiel. Il faut savoir aussi que contrairement à ce qu'on entend souvent, on dit souvent c'est les data centers qui consomment souvent. Donc si on règle le problème des data centers, on met des panneaux solaires, des éoliennes qui posent aussi tout un tas d'autres problèmes, on va résoudre le coût écologique du numérique. Non, les data centers en fait ne consomment que 30% de l'électricité qui est dévolue au numérique. 30 autres pourcents sont dues aux équipements terminaux, c'est-à-dire les smartphones, les téléphones, les ordinateurs, etc. 30% de l'énergie du numérique via les équipements terminaux, enfin, sont dues aux équipements terminaux. Et les 40 derniers pourcents sont dus au réseau en eux-mêmes, c'est-à-dire les câbles, les antennes relais, etc., etc. Donc en réglant le problème des data centers, on est loin de régler le problème de la consommation énergétique du numérique. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que les nouvelles technologies, 5G, etc., la 5G qui va être la technologie maîtresse, enfin une des technologies maîtresses de la Smart City, est-ce que ces technologies vont permettre de gagner en efficacité énergétique? Et bien là, absolument pas. On a un dernier rapport de l'ARCEP qui nous montre que la 5G, même avec des gains d'efficacité énergétique, ne contrebalancera pas l'augmentation du réseau qu'elle va amener, du trafic sur le réseau. Les gens vont beaucoup plus consommer le numérique avec la 5G, et donc même si c'est plus efficace énergétiquement, il y aura toujours une facture énergétique supplémentaire. Et cette facture énergétique supplémentaire a été estimée on pourrait revenir sur la qualité de leur travail, un groupe qui s'appelle The Shift Project, qui a estimé que la 5G va ajouter à la consommation nationale française jusqu'à 3% d'électricité en plus, de consommation d'électricité en plus, et va multiplier par 5 la consommation des opérateurs de téléphonie mobile. Voilà, donc c'est quelque chose de faramineux. Pour donner un autre chiffre, un autre ordre de grandeur, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en 2020, le secteur du numérique émet autant de gaz à effet de serre que le secteur de l'aviation, 5% des gaz à effet de serre. Voilà, donc c'est tout sauf négligeable. Voilà. Bon, ça, c'est à peu près les ordres de grandeur. Et après, petit détail dans les détails, au niveau personnel et bureautique, par exemple, dans les entreprises, les technologies de l'information et de la communication, le numérique, est le premier poste de consommation électrique dans les entreprises, mais le second aussi à la maison. Donc c'est quelque chose qui nous fait aussi beaucoup consommer en tant que tel, et donc on a le droit de questionner. Et petit dernier détail dans le détail, entre les différentes technologies numériques qui sont toutes questionnables sur différents points de vue, la fibre optique, il y a une étude de l'ARCEP qui est sortie là-dessus, la fibre optique va faire consommer 5 kWh à un consommateur moyen sur une année, 5 kWh, alors que la 4G en fait consommer 50 kWh, donc 10 fois plus. Voilà. Ça ne veut pas dire que la fibre optique c'est la panacée, tout est bien avec la fibre optique. Mais c'est pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Voilà. Alors je laisse de côté l'aspect, un autre corollaire de la technologisation et de la numérisation actuelle, que sont les effets sanitaires, puisqu'on y reviendra, si le contexte le permet, le 11 avril prochain avec la présidente de Priartem qui viendra, Sophie Pelletier, qui viendra dialoguer ici même le 11 avril, avec Mathieu Amièche du groupe Marcuse, pour essayer de coupler effets sanitaires et numérisation du monde. Voilà. Donc voilà, maintenant je laisse la parole à Pierre Simonneau. Voilà.
Hein, non, celui-là il ne marche pas.
Ah oui. Alors tant qu'on n'a pas encore démarré, j'en profite. Ah. Est-ce possible d'éteindre, de mettre en mode avion vos téléphones portables, voire vous en débarrasser tout court? Voilà, il y a des nouvelles. Ça pourrait être pratique, c'est que les téléphones émettent dans toutes les directions.
Ah, ça marche.
Les téléphones émettent dans toutes les directions, la fois tous les temps.
Alors, je vais vous faire effectivement un petit aperçu de ce monde machine. Si vous voulez qu'on parle d'homme machine, il faudra qu'on revienne pour faire quelque chose sur le transhumanisme. Mais l'idée des personnes qui nous ont invités, c'était qu'on parle de ce monde machine ce soir, parce qu'il y a cette problématique de Smart City à Rodez, ce en quoi vos élus ne sont pas du tout originaux. Je suis désolée de vous le dire. N'importe quelle commune ou métropole aujourd'hui en France prétend être une Smart City. Et ce faisant, tout simplement applique les solutions que lui offrent les ingénieurs clés en main, et à commencer par ceux d'IBM, qui sont ceux qui ont inventé ce terme de planète intelligente en 2008, d'où est dérivée la ville intelligente, en bon français Smart City. Donc vous voyez que, en fait, c'est pas un projet politique, au sens où quelqu'un aurait eu une idée d'organisation sociale politique nouvelle, c'est un projet technologique vendu par les ingénieurs aux élus, mais c'est un projet politique quand même, évidemment, quand on dit la technologie rentre, c'est la guerre par d'autres moyens, c'est la politique par d'autres moyens, parce que ça va conditionner nos vies, à nous tous, qu'on habite la métropole de Grenoble comme nous, Rodez comme vous, ou Angers par exemple, puisqu'ils ont aussi un fabuleux projet, ça va conditionner nos vies d'individus et nos vies sociales à l'intérieur de ces villes qui deviennent de plus en plus automatisées. Il y a plus de 1000 villes intelligentes qui sont en projet, en construction dans le monde, dont la moitié en Chine. Mais je pense qu'on commence à déjà en avoir des aperçus par les quelques informations qui viennent jusqu'à nous. La Smart City, c'est simple, c'est le produit du numérique et de la métropolisation. On n'arrête pas de nous dire que d'ici 2050, 80% de la population va vivre dans des métropoles, dans les villes. Ça n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais c'est un fait organisé. Vous prenez la France, vous décidez dans la petite commune, on ferme la poste, l'école, la gare, le centre des impôts. Bah, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont vivre en ville. Et ainsi, peu à peu, s'agglomèrent et construisent, enfin, font ces métropoles où il y a de plus en plus de monde. Quand vous rassemblez beaucoup de monde au même endroit, vous avez des problèmes de type industriel, c'est-à-dire comment on gère les flux et les stocks. Voilà, et c'est comme ça que parlent les ingénieurs d'IBM quand ils vendent leur solution de Smart City. En gros, vous devez gérer des flux et des stocks d'humains, de voitures sur le périphérique, de gens qui attendent aux urgences, d'écoliers qui doivent aller à la cantine, et ainsi de suite. Et ça, c'est juste des flux et des stocks. Et ça, ça se gère très bien dans les usines par des systèmes automatisés. Donc, on va faire pareil avec les humains dans les villes. Et c'est la technologie qui va permettre une organisation rationnelle de cet ordre public-là. Pourquoi ? Parce que plus il y a de monde sur un territoire, plus il faut éviter que ça bloque, qu'il y ait des blocages, des pannes, que ça grippe la machine. Et ça, ce qui va permettre de l'éviter, c'est le pilotage centralisé de cette machine urbaine par un macro-système justement qui centralise ça. Et qui est littéralement l'application du projet cybernétique. Alors la cybernétique, c'est un projet qui naît après-guerre, notamment dans l'esprit d'un mathématicien américain qui s'appelait Norbert Wiener, et qui, partant du constat que l'humanité était faillible, comme l'avait prouvé la Seconde Guerre mondiale, ne pouvait plus prendre en main elle-même son organisation sociale. C'est plus possible de laisser les hommes décider. Ça va pas, ils font des conneries, on voit bien ce que ça donne. Donc, il faut qu'on rationalise ça, et pour ça, on va le confier à la machine. Cybernétique, ça vient du grec kuber, qui est le pilote, le gouvernail, hein, c'est lui qui va donner la direction. Et donc, l'humain étant l'erreur, finalement, c'est l'humain le problème, on va le remplacer par un système rationnel, machinal, machinique. Et tout de suite après, le chroniqueur scientifique du Monde, qui est un dominicain, qui s'appelle Pierre Dubard, écrit un article sur la machine à gouverner. En disant, bah voilà, c'est ça les idées nouvelles. Au fond, il faut organiser la société en confiant la gestion à la fois quotidienne, mais le pilotage, l'organisation, à des machines. C'est la même idée que le transhumanisme, qui consiste à dire l'humain, c'est l'erreur, l'humain est faillible, il faut qu'on l'hybride avec la machine pour le rendre plus parfait. Enfin, bon, c'est la même idée. Alors, évidemment, quand Norbert Wiener ou Pierre Dubard parlent de ça en 48, je pense que les terriens de l'époque se grattent la tête et se disent « bon, ils sont gentils, mais ça a l'air un peu fantaisiste ». Et puis quand on parle de ça en 2020, on rigole beaucoup moins, parce qu'on voit de quoi on parle. Ça a pris évidemment, ça s'est concrétisé, au point qu'aujourd'hui, nous sommes tous des smartiens, donc nous sommes des habitants de la Smart City, et que nous sommes équipés de systèmes interconnectés. Alors évidemment, individuellement, pour ceux qui possèdent la prothèse universelle, hein, le smartphone qui permet d'être connecté avec son environnement, avec son technotope, c'est plus un biotope dans lequel on vit, c'est un technotope. Mais bien sûr, les environnements urbains ou métropolitains qui eux-mêmes sont interconnectés, c'est-à-dire que tout autour de nous est équipé, ou en tout cas destiné à être équipé, de puces, de capteurs, de systèmes de communication sans fil, ou avec fil si on veut, peu importe, mais qui font que les objets peuvent discuter entre eux, peuvent se connecter entre eux, échanger leurs données, et puis qu'à un moment donné, il y a une collecte centralisée de toutes ces données, c'est ce qu'on appelle le big data, qui permet à des systèmes automates, des algorithmes, d'intelligence artificielle, de prendre des décisions qu'on estime optimales, hein, les plus rationnelles possibles, en fonction des données qui sont fournies instantanément. Petit aperçu comme ça, rapide, vous avez tous ces systèmes de déclenchement automatique, les barrières, les bornes, qui fonctionnent maintenant uniquement avec le sans contact par exemple, Vous avez les caméras à reconnaissance faciale qui permettent de détecter des situations particulières dans la ville de façon automatique, encore une fois. Vous avez le système de billettique sans contact pour les transports en commun qui collecte en temps réel et en permanence des données. Mais ce n'est pas seulement les transports en commun. On collecte vos données de smartphone quand vous êtes dans votre voiture pour évaluer l'état du trafic, évidemment. Mais on a aussi, dans certains endroits, des tests sur, par exemple, le taux d'occupation des bancs publics. C'est une information qui peut intéresser les gestionnaires de la ville grâce à des capteurs qui sont évidemment installés dans ces équipements. La consommation énergétique en temps réel, ça vous en avez tous entendu parler grâce à Linky et au réseau dit intelligent, les smart grids. Et puis, les caméras vont pouvoir détecter ce qu'on appelle les anomalies comportementales. Maintenant, ça se fait aussi dans l'espace public, c'est-à-dire qu'on sait que tel arrêt de bus, normalement les gens doivent y rester tant de temps et pas plus, qu'il n'y a jamais plus de tant de personnes, etc. Et si on détecte qu'il y a un mouvement ou un rassemblement ou des choses qui n'ont pas lieu d'être ordinairement, alors on a une alerte qui est déclenchée. De la même façon, dans les stations de métro, Thalès vend un système qui s'appelle Hyperviseur, c'est eux qui l'ont nommé comme ça, et qui centralise comme ça toutes les données dans l'espace public, notamment par exemple à Mexico, dans les énormes métropoles, et qui permet de détecter les anomalies. Donc si une station de métro ne se vide pas, par exemple, dans le temps normal, qui est de, je sais pas, 5 minutes 27 secondes, alors on déclenche l'alerte. Et on va pouvoir, à distance, éventuellement, fermer des portes, arrêter les tapis roulants, passer les feux du quartier au rouge pour pouvoir laisser passer les véhicules prioritaires, et ainsi de suite. Il y a tout ce système-là qui est automatisé. À Angers, le maire a comme projet formidable de mettre des capteurs dans les jardins publics pour savoir s'il a plu. Ce qui est quand même... c'est pratique. Et l'argument qui est utilisé, c'est toujours l'argument écologique, c'est-à-dire que c'est dommage que les jardiniers, le lendemain, qui ne sont pas capables de voir s'il a plu, arrosent bêtement. Bon. Alors là, on va avoir un système d'arrosage automatisé qui ne se déclenchera qu'en fonction des ordres donnés par les capteurs qui auront mesuré s'il a plu ou pas. Voilà. Moyennant encore, on va utiliser des capteurs électroniques, des puces électroniques qu'on fabrique près de chez nous dans une usine à puces qui s'appelle ST Microelectronics, qui est la troisième fonderie européenne de puces, et qui engloutit toute la flotte. Donc on va faire des grands progrès dans l'économie d'eau, de l'arrosage, pour faire ces capteurs et économiser un peu d'arrosage parce qu'on saura s'il a plu. Eh bien, il faut que nous, on engloutisse toute la flotte des Alpes pour fabriquer ça. Vous voyez la logique, un petit peu. Donc en fait, si vous voulez, la collecte de ces données qui, en permanence, analysent nos gestes, et sont transmises, font que la gestion des flux et des stocks est plus facile et que nous ne sommes plus dans la ville des citadins, éventuellement des citoyens, si on pense encore à ça, ou tout simplement des individus, des personnes, mais nous sommes des profils, et des profils statistiques hein, qui vont être analysés en tant que tels. Et au fond, ce que ça nous dit tout ça, c'est que la ville se transforme comme une fourmilière, en quelque sorte la fourmilière machine, hein, dans laquelle nous ne sommes plus des individus autonomes. Nous devenons les passagers de nos propres vies, parce qu'il est connu que les voitures autonomes dans lesquelles nous serons seulement passagers seront beaucoup plus efficaces que nous-mêmes pour nous piloter. C'est le même principe. On dit la voiture autonome, ça va éviter les bouchons, parce qu'elles vont communiquer entre elles, ça va éviter les accidents, ça va éviter les écarts de conduite, et que sais-je. Et bien c'est pareil pour le reste de la vie, au fond. C'est plus à nous de décider. C'est à la machinerie de décider pour nous. Et le principe de la Smart City, il est là. Il est éliminer l'humain de la prise de décision. Dans certaines stations de métro de Londres, pour pouvoir mieux gérer les flux, de la même façon qu'on raisonne sur les mécaniques des fluides, hein, tout simplement, si on a besoin, on va pouvoir accélérer ou ralentir la marche du piéton. C'est-à-dire que quelque chose qui est quand même encore du ressort de l'individu, c'est pas qu'on vous a mis une puce dans le cerveau, c'est pas ça, c'est qu'on peut accélérer ou ralentir la machinerie automatique du métro. Par exemple, le rythme auquel on vous débite les billets. Il est possible que quand vous achetez votre billet à la machine, elle aille plus ou moins vite. que les portillons qui s'ouvrent ou qui se ferment aillent plus ou moins vite, et ainsi de suite. La station métro, c'est un bon écosystème pour analyser ça. Et donc, vous-même, vous allez être, malgré vous, invité à piloter, à marcher plus ou moins vite. Ça, c'est de la cybernétique, c'est du pilotage centralisé. Donc, là, ce qui reste de nous, bon, en gros, c'est de fonctionner dans cette machinerie-là, et que nos gestes puissent être non seulement analysés parce qu'ils sont repérés, mais anticipés. Le but du jeu, c'est qu'on anticipe même nos propres gestes. Bon, parce qu'on est quand même des animaux un peu routiniers, on a aussi des habitudes.
Grégaire.
Et donc, si on puce nos poubelles, comme c'est le cas chez nous à Grenoble, par exemple, qu'on puce nos places de parking, qu'on puce, ou qu'on relève nos consommations électriques en temps réel avec Linky, et ainsi de suite, on finit par avoir une connaissance de nos habitudes très fine. Hein, et ça, c'est pratique pour piloter ça automatiquement, évidemment. Et vous n'êtes pas censé prendre des initiatives. Hein, attention, pas censé commencer à changer les choses. Et il y a cette idée qu'au fond, c'est la mère machine, vous voyez, qui va nous prendre en charge. Hein, qui va s'occuper de tout ça, qui va nous s'occuper de nous. Et c'est vendu comme ça, parce qu'à longueur de temps, chez nous, en tout cas, je suis sûre que chez vous, c'est pareil, les promoteurs de la Smart City nous expliquent à quel point ça va être plus pratique. Et c'est l'argument majeur qui est celui de la simplicité, ça va être plus pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que ça va être plus pratique? Ça veut dire qu'on va vous épargner le souci de décider par vous-même. Et surtout pas d'ailleurs, parce que sinon ça fout le bordel, dès qu'on commence à prendre des décisions, ça grippe la machine. Et l'idée, c'est que vous suiviez les recommandations de la machine. C'est déjà le cas, par bien des manières, mais par exemple, vous avez maintenant beaucoup de gens qui suivent les recommandations d'achat, qui sont fournies par les algorithmes. Hein. Ça, c'est un des grands prescripteurs, c'est Amazon. Mais vous suivez aussi en général les recommandations du GPS qui va vous dire vaut mieux passer par là que par là. Vous avez aussi le système de transport chez nous qui est de plus en plus automatisé, qui communique en temps réel avec votre smartphone et qui va vous conseiller plutôt de prendre tel trajet, de prendre tel arrêt, etc. Donc vous suivez gentiment les recommandations du système central pour éviter d'avoir des soucis, qui peuvent être de vrais soucis, hein, comme d'être coincé dans des bouchons éventuellement. Mais c'est surtout le souci de s'occuper de sa propre vie quotidienne. Et c'est ça qui nous est enlevé petit à petit par la ville machine et par le monde machine. C'est un truc extrêmement prégnant dans l'idée de la cybernétique. Hein. C'est justement, on élimine l'humain, on confie ça à la machine et tout va bien se passer. Vous n'avez qu'à suivre les recommandations. Donc maintenant, évidemment, tout ça, ça s'additionne d'un discours écologiste au sens de, il faut faire la transition écologique pour mieux gérer les ressources, la flotte, l'énergie, on nous vend ça comme ça. Vous avez compris que c'était évidemment un marteau-piqueur pour écraser une mouche, puisque pour mettre 3-4 heures pour savoir s'il a plu, on consomme beaucoup d'eau, et que pour économiser éventuellement un tout petit poil d'électricité chez vous avec Linky, il faut faire tourner des data centers qui, eux, consomment 10% de l'énergie, de l'électricité globale. Donc évidemment, c'est un faux argument, mais c'est celui-là qui revient tout le temps. Et c'est comme ça qu'on nous vend. Nous, à Grenoble, on nous dit toujours « Vous avez de la chance, vous avez un maire écolo. Donc vous allez être préservé de tout ça, vous n'aurez pas de Linky, vous n'aurez pas de... » évidemment. Non, nous, on a un compteur électrique encore plus intelligent que le Linky. Et puis on a, comme je le disais, donc nos poubelles sont pucées, on a des bâtiments autonomes avec du pilotage centralisé, et ainsi de suite. On est à la pointe de ça parce qu'on a les laboratoires qui bossent là-dessus, les usines et les chercheurs. Donc évidemment, notre maire n'est pas écologiste, il est technologiste, mais il utilise l'argument vert pour qu'on fasse la Smart City encore mieux. Quoi. Donc voilà, on ne discute pas avec les algorithmes. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous, en général, mais ce n'est pas vous qui gagnez. Hein. À la bande SNCF, tout ça, en général, on ne discute pas avec les algorithmes. Et au fond, ce qui se passe avec le monde machine, qui se met en place comme ça, c'est que petit à petit, d'abord, on perd l'habitude d'agir, de réfléchir, de décider par nous-mêmes. Petit à petit, s'insinue l'idée que notre smartphone va nous donner la meilleure réponse, la meilleure solution, et que, au fond, bah oui, pourquoi pas la suivre, il est sûrement plus intelligent que nous. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est insidieux, hein, c'est pas, mais dans les jeunes générations, ceux qui sont très habitués à ça et tout, ils ont plus l'idée qu'ils pourraient peut-être lâcher le machin et puis trouver un itinéraire, quoi, par exemple, tout seul. Il y en a qui essayent, mais globalement, c'est un truc qui est en train de se perdre, quoi. Et ce qu'on est en train de perdre avec ça, c'est tout simplement, tout petit truc, quoi, hein, détail dans l'histoire de l'humanité, c'est notre autonomie. C'est-à-dire qu'on devient pieds et poings liés à la machine. Et quand il y a un virus qui menace, et ben à ce moment-là, la solution, elle est très simple. On va tous rester derrière nos écrans, on va tous être connectés à la mère machine,
voilà, oui.
Et elle va prendre en charge le quotidien. Elle va s'occuper des vieux, elle va s'occuper des enfants qui ne vont pas à l'école. La solution est toute trouvée. Parce que nous, humains, nous sommes considérés comme le défaut, l'erreur. C'est le problème. Donc il y a un marché de dupes, parce qu'en fait on nous vend ces solutions comme étant des solutions qui vont nous donner plus de pouvoir, de puissance. On va être plus fort, on va pouvoir faire plus de trucs. Mais c'est pas à nous que ça donne plus de pouvoir, c'est à nos machines. Et à nous, ça nous enlève en fait. C'est vraiment une dépossession qui se fait. C'est un marché de dupes complet, mais qui passe parce que l'argument de la facilité, de la commodité, reste séducteur. Et c'est de la facilité. Et au fond, ce qu'on est en train aussi d'abandonner, c'est l'idée qu'il faille faire un effort, y compris pour être libre. Parce que la liberté, ça demande un effort. Et cet effort-là, il commence à peser lourd face à une solution toute clé en main, toute prête. Et au fond, on pourrait bien troquer tout simplement notre liberté contre la solution de facilité. Et c'est vraiment, pour nous, le grief principal contre la Smart City, il est là. Parce que quel genre d'humain on va fabriquer dans ces villes et dans ce monde plus général? Mais l'image qui m'est venue tout à l'heure, c'est qu'on devenait des bouchons sur l'eau, mais des bouchons connectés. Des bouchons connectés. Des bouchons qui flottent sur l'eau, comme ça, mais connectés. Et que, bon, la question qui se pose quand même, c'est est-ce que c'est de ça qu'on a envie, hein, premièrement? Remarquez qu'on n'en débat jamais. Le débat ne se pose jamais à ce niveau-là. Hein. Le débat, il est toujours sur plutôt telle solution, plutôt telle autre, mais toujours dans la même idée d'aller dans cette direction-là. Donc, il nous semble, nous, que c'est une question carrément anthropologique qu'il faut poser. Là, on est vraiment au cœur de quel humain on veut continuer à être ou devenir, ou dans quel sens aller. Et pour nous, ça passe évidemment par la reconnaissance d'une évidence, mais qui est longue à percer, mais j'ai l'impression qu'elle commence à percer, qui est que le progrès technologique n'est pas synonyme du progrès social et humain, que en ce moment-là, on est en train de vivre un moment où c'est l'inverse, et où chaque nouvelle vague de progrès technologique entame est synonyme de regret, le vieux mot existe, le français l'utilisait, de regret social et humain. Donc voilà, c'est sur ces bases-là que nous, on souhaite débattre de la Smart City et de ces projets de ville intelligente qui fleurissent, le mot est très mal choisi, qui, je ne sais pas comment on dit en informatique, qui émergent partout chez nous. On a beaucoup parlé, maintenant c'est à vous. Merci en tout cas de m'avoir écouté.